Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Le 5 décembre prochain, donc samedi, c'est la Journée internationale des bénévoles. Journée qui a comme but, entre autres, de rendre hommage aux bénévoles, de saluer leur contribution à notre société, leur dévouement également. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un angle bien particulier, l'impact de la santé, en fait, l'impact du bénévolat sur la santé des bénévoles eux-mêmes et non ceux qui reçoivent des services, les bénéficiaires du bénévolat. Et on posera ces questions-là à Monique Villeneuve, elle, directrice générale du réseau de l'Action bénévole du Québec. Et aussi, les analyses sanguines, qu'on appelle aussi plus souvent les prises de sang, un moyen pour votre médecin de faire un diagnostic pour certaines maladies. Toutefois, pour d'autres pathologies, ben, ça va demander des recherches un petit peu plus poussées. À quoi servent exactement les prises de sang? Ce qu'elles révèlent, ce qu'elles ne révèlent pas? J'en parle à l'instant avec Dr. Harold Aulnay, hématologue et oncologue médical, chef du département d'hématologie médecine transfusionnelle du CHUM. Docteur Aulnay, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Je vous cacherai rien, là, les prises de sang, en général, on n'aime pas ça. Ça implique des aiguilles, ça implique du sang, mais c'est un mal nécessaire. D'entrée de jeu, Docteur Aulnay, quand notre médecin nous prescrit des analyses sanguines, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce que ça signifie?
Bon, bien, le médecin va demander des analyses sanguines pour plusieurs différentes raisons. La plus grande raison, c'est pour le dépistage. On veut chercher ou identifier une pathologie qui pourrait être évidente à l'intérieur du prélèvement de sang, qui pourrait expliquer une symptomatologie vécue par le patient. Il y a certaines analyses qui, une fois qu'on a mis en vue une pathologie qu'on veut aller faire pour caractériser ce qui se passe, et puis finalement, il y a plusieurs analyses sanguines qui sont simplement pour faire un suivi face à des complications qu'on pourrait avoir avec un traitement ou avec une maladie qui peut évoluer de façon vraiment diverse. Et c'est une mesure de sécurité envers les patients.
Est-ce que seul le médecin peut prescrire une analyse sanguine ou en tant que patient, on peut dire « j'aimerais en avoir une » à notre médecin?
Non, les patients ne peuvent pas prescrire leurs propres analyses sanguines. C'est sûr que leurs plaintes ou les problèmes de santé doivent être discutés avec le médecin qui, lui, va juger ou pas d'entreprendre une analyse sanguine. Puis évidemment, 95 à plus pour cent des analyses sanguines sont demandées par des médecins, mais les pharmaciens sont maintenant reconnus pour certaines pathologies. Ils peuvent demander certaines analyses dans le suivi de certaines maladies qui sont maintenant autorisées. On a aussi des infirmières qui peuvent soit répondre à des ordonnances collectives qui leur autorisent à faire certaines investigations ou suivis, ou encore des infirmières praticiennes qui ont un pouvoir de demander certaines analyses dans leur champ d'expertise.
Quel genre de symptômes peuvent mettre une puce à l'oreille à notre médecin?
Bien, évidemment, des symptômes de fatigue et de manque de bien-être global sont probablement une des motivations principales pour entreprendre des analyses. Évidemment, une perte de poids ou une douleur qui peut être caractéristique de certains éléments vont aussi provoquer des analyses. Évidemment, la majorité des analyses sont sanguines, mais évidemment, il y a d'autres analyses qui peuvent être apportées aussi.
Oui. Bien sûr, les plats révèlent certaines choses, mais ça ne révèle pas tout. Toutefois, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas diagnostiquer suite à des prises de sang.
Effectivement, il y a très peu de maladies qu'on peut, de façon absolument concrètement, dépister dans le sang. On a évidemment des indices. Les analyses de sang ne remplacent pas une évaluation pathologique où on prend une biopsie pour faire une analyse de certains tissus. Mm-hmm. Évidemment, ce qui préoccupe beaucoup de monde, évidemment, c'est toujours le cancer qu'on ouais. pense que, oups, il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est heureusement un phénomène plus rare que d'autres maladies qui sont plus communes. Et c'est la minorité des analyses qui peuvent nous démontrer mm-hmm. un cancer dans le sang. Ça dit, on a des analyses très sophistiquées, puis génétiques, par exemple, où on va chercher la biologie moléculaire de certaines gènes. Et avec l'identification de ces gènes-là, on peut identifier une prédisposition à certaines maladies ou, entre autres, des cancers. Ça commence à être dans les zones de possibilité, mais ce n'est jamais les premières analyses qui vont être faites. Généralement, ces analyses-là, plus poussées, vont être faites en deuxième instance, généralement sous la direction d'un spécialiste qui est plus familier avec l'utilisation de certaines de ces analyses. Mm-hmm. Vous savez, au CHUM, on a plus que 1000 analyses qu'on fait de façon communément, mais de ça, il y a probablement une demi-douzaine qui se démarquent comme étant les principaux oui. analyses qui sont faites pour la population.
Et quelles sont-elles, ces principales analyses-là?
Le test numéro un, c'est la formule sanguine où on va dépister la quantité de globules, que ce soit blanc, rouge oui. ou plaquettes, dans le sang. Ici, au CHUM, on en fait à peu près 600 000 par année. Mais c'est sûr qu'on est une des plus gros centres au Québec. Il y a quelques autres qui vont avoir ce volume-là. C'est sûr que c'est une thèse de dépistage si on a une fatigue, si on a des infections, si on a des saignements. C'est tous des éléments que la formule sanguine nous aide à dépister. La deuxième test la plus fréquente que je dirais, c'est des analyses de biochimie où on va aller évaluer la fonction des organes vitaux, là, entre autres les reins, mm-hmm. Qui peuvent avoir beaucoup de pathologies qui se rendent tranquillement, qui ne vont pas nécessairement toujours être évidents, et suivi probablement des analyses du foie qui sont aussi assez bien dépistées par le sang.
Mm-hmm. Est-ce que les analyses sanguines peuvent servir à de la prévention? C'est-à-dire que si on est à risque de développer un diabète par nos antécédents familiaux, notre médecin pourrait dire, tu auras des analyses sanguines X fois par année pour qu'on puisse prévenir et surveiller peut-être l'apparition du diabète.
Non, c'est effectivement la deuxième instance, c'est plus pour surveiller, ça ne prévient pas malheureusement, les analyses sont faites vraiment plus pour dépister, mm-hmm. Et il y a des règles, des recommandations canadiennes qui sont adoptées par des savants qui se mettent ensemble pour réévaluer la littérature pour dire quelles analyses sont les plus utiles. Entre autres, on a les histoires qu'on entend avec les mammographies pour les femmes, mais il y a aussi des analyses dans le sang pour le cancer du prostate pour les hommes. On vient de passer le mois de novembre, qui sont des fois controverses et la littérature, comme vous savez, vos écouteurs sans doute savent, on a souvent une étude qui va nous dire que oui, puis une autre qui va contredire. Ouais. Et évidemment, de nuancer toutes ces recommandations, ça prend souvent des experts qui s'assoient ensemble pour vraiment regarder cette littérature à une rigueur plus profonde que le commun médecin va être capable même de faire pour aider à faire des recommandations sur ces dépistages-là.
Donc, la prise de sang, si j'entends bien, n'est pas toujours fiable. Parfois, il faut pousser un petit peu plus la recherche.
Mais en principe, c'est seulement les laboratoires agréés qui sont au Québec qui ont le droit de faire des analyses sanguines diagnostiques. La fiabilité, qu'on parle de fiabilité, c'est est-ce que le test nous donne la bonne réponse? Et la réponse, c'est qu'au Québec, nos laboratoires ont des exigences très élevées et la réponse, mm-hmm. est oui. Mais il faut s'assurer que l'échantillon respecte toute la chaîne. Alors, si on prend un échantillon de sang, on le laisse sur le comptoir pour 3 semaines avant de faire l'analyse, c'est certain
ouais.
que ça ne sera pas valide.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, les analyses de sang sont très fiables, mais ils ne sont pas faits pour faire le diagnostic de certaines pathologies. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, donc, dans le sens, est-ce qu'on manque des maladies par des analyses de sang? Certainement, parce que le but, c'est pas nécessairement de faire... et les médecins reconnaissent les limitations de chaque analyse. On ne va pas diagnostiquer nécessairement un cancer avec une analyse sanguine. On peut manquer un cancer. Il faut vraiment faire l'écoute, l'examen et d'autres analyses, entre autres des imageries ou encore des biopsies pour confirmer certaines autres analyses.
C'est un outil parmi d'autres outils.
Tout à fait.
Oui, je le comprends mieux comme ça. Mais on sait que, par exemple, le diabète, la leucémie, les résultats peuvent être un petit peu plus probants. Ça se détecte mieux. Il y a certaines maladies qui vont être plus appropriées là, à faire, on va être plus apte à faire un diagnostic avec une prise de sang.
Absolument. La diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang et nos analyses sont très, très fiables et performantes pour identifier ça. Et on sait, parce que presque toutes les familles québécoises ont connaissance de quelqu'un qui a une diabète et on voit bien qu'il y a des appareils mobiles qu'on peut tester des analyses de sang pour voir la glycémie un peu n'importe où.
Mm-hmm.
La leucémie aussi, c'est une maladie des globules blancs et par définition, c'est présent dans le sang. Donc, c'est une des cancers qui est l'exception que le sang est extrêmement performant en termes de dépister ça. On ne peut pas diagnostiquer une leucémie sans avoir une analyse de sang perturbée de façon significative.
Mm-hmm. Maintenant, Dr. Honey, comment on se prépare à une prise de sang? Parce que parfois, les informations sont un petit peu opposées. On se dit, ah, il faut être à jeun. D'autres nous disent, non, c'est pas nécessaire. Donc, comment on s'y prépare?
Alors, évidemment, il faut pas paniquer avec un prélèvement de sang. Moi, c'est pas une analyse avec les professionnels qui font les prélèvements. Il faut essayer de... C'est vraiment des professionnels. Ceux qui font les prélèvements, ça va être des technologues médicaux ou encore des infirmières qui sont formées à le faire. Et là, généralement, à moins qu'on ait des stagiaires, qui peut arriver, on a des experts qui font ça dans tous les hôpitaux au Québec. On se prépare surtout en étant prêt à montrer une veine qu'on peut aller chercher. Donc, d'avoir du linge trop serré, c'est évidemment moins optimal. En termes d'être à jeun ou pas, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, toutes les analyses qui dépendent de l'alimentation, donc le cholestérol, les sucres, les taux de glycémie et certaines autres analyses, ça prend un jeûne de temps variable. Des fois, c'est 4 ou 6 heures, des fois, c'est 8 et des fois, c'est 12 heures de jeûne qui va être plus propice pour avoir une analyse exacte. C'est sûr que si on n'est pas à jeun, on va avoir une tendance quand même, puis il y a des limites pour les différents paramètres, qu'on soit à jeun ou pas. Normalement, une agence de collection de sang va vous indiquer des recommandations spécifiques. Pour la grande majorité des analyses, on n'a pas de besoin d'être à jeun. Par contre, si votre médecin est en train de chercher une diabète ou un problème de cholestérol, c'est sûr que ces analyses-là, qui sont quand même des analyses relativement fréquentes, nécessitent un jeûne avant ces analyses-là. On peut souvent, sur les demandes de requête, il va souvent avoir des numéros de téléphone qu'on peut des fois appeler pour avoir un petit peu plus d'infusions. Et on peut demander au personnel d'une clinique médicale. La grande majorité des infirmières peuvent répondre facilement si c'est un test qui nécessite un jeûne ou pas.
Mm-hmm. Et j'imagine que notre médecin peut aussi nous donner quelques informations, à savoir... Bon, qu'est-ce qu'ils cherchent et les précautions qu'on doit prendre avant notre prise de sang?
Absolument. Il y a très peu d'éléments qui nécessitent un régime très sévère, mais il y a quelques analyses qu'il faut éviter, la caféine et le chocolat.
L'alcool aussi.
Et de l'alcool. Ça dépend quelles analyses on cherche. Et évidemment, votre médecin est toujours bien placé pour vous aviser ça veut dire ces analyses, qu'est-ce qu'il recherche. Et s'il parle de diabète ou de cholestérol, un dépistage annuel. Généralement, dans les dépistages annuels, c'est souvent les contrôles de cholestérol et la recherche des glycémies. Donc, effectivement, pour ces analyses-là, on va souvent demander un jeûne. un suivi d'une condition déjà établie peut souvent éviter ce jeûne-là parce que ce n'est pas les mêmes analyses nécessairement qu'on va chercher.
Mm-hmm. Maintenant, ça m'est déjà arrivé dans le passé, Dr. Aulnay, d'avoir une prescription ou une recommandation de prise de sang par mon médecin, mais après de ne pas avoir d'aide pour l'interprétation de ces résultats-là, donc la lecture. Évidemment, il nous reste peu de temps, puis on ne veut pas que ça soit compliqué, on veut que ça soit accessible pour les gens qui nous écoutent, mais c'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Comment décortiquer ce relevé-là?
Donc, c'est sûr que si on reçoit une copie de l'analyse, il faut, dans tous les rapports qui sont émis de les laboratoires que je connais, on met toujours des barèmes de normal. Mm-hmm. Il faut pas oublier que les barèmes de normal, par définition, on essaie d'établir une population normale. Il y a certains sous-groupes de la population, que ce soit une race différente, qui peuvent des fois avoir des variations attendues de cette sous-population-là. Et nos résultats sont vraiment adaptés pour une population québécoise normale. Par définition, à peu près 2,5 % des patients vont être en haut ou en bas des valeurs normales qui sont là. C'est comme ça qu'on fixe les échelles pour la normalité. Alors, si on est proche de le niveau bas ou élevé, ça peut être un phénomène attendu statistiquement parlant. Mm-hmm. Si on voit une déviation très forte ou loin de les valeurs de référence, à ce moment-là, c'est peut-être un élément qui doit être recherché ou un défaut à corriger chez ce patient-là. C'est clair que le médecin va être capable de vous aviser de façon plus intelligemment, mm-hmm. parce que certaines analyses qui ont une grande variabilité, puis il y en a d'autres qui n'ont pas, et il y en a qui sont faussées justement si on va avoir mangé ou pas avant. Alors, on panique pas si notre glycémie ou le taux de sucre dans le sang est à 6,1 si on a eu notre jus puis on avait oublié de faire le jeûne complet.
Mm-hmm. Ben oui. Puis encore là, bon, j'imagine que si ces résultats ne sont pas dans les paramètres dits normaux, évidemment, à ce moment-là, notre médecin prendra contact avec nous. En terminant, Dr. Aulnay, pour ceux qui ont peur des aiguilles, qui ont peur du sang, est-ce que vous avez des petits trucs pour peut-être un petit peu mieux apprivoiser ce moment-là qui est jamais très, très agréable?
C'est sûr que d'amener un Walkman ou un radio puis un écouteur et de ne pas regarder, des fois, va faire l'affaire. Il y a du monde qui... il n'y a pas de miracle, non, mais ouais. C'est souvent le préleveur qui est capable de distraire, de parler avec votre technologue ou votre infirmière qui prend les prélèvements va souvent être suffisant pour vous distraire. Évidemment, on ne peut pas tout enlever la douleur. Et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres.
On peut mettre une compresse d'eau froide, est-ce que c'est recommandé?
Le problème avec l'eau froide ou avant le prélèvement, c'est que la veine va peut-être être rétrécie dans ce contexte-là
et donc l'aiguille
rentrera moins bien. Mm-hmm. Ils auront plus de problèmes. Certainement après, si ça piquait, on peut faire ça. Et quand c'est extrêmement déplaisant, il y a une couple de choses qui sont possibles, mm-hmm. mais c'est malheureusement pas de pratique courante chez chez les enfants. Il y a des appareils qui peuvent faire vibrer le pot, et puis donc stimulant les nerfs autour, mm-hmm. il conduit moins la sensation de douleur. Mm-hmm. Avant. Donc, chez l'adulte, j'ai jamais fait l'essai.
Mais vous avez raison de dire que les technologues, les infirmières qui sont en place sont souvent très, très habitués à gérer des angoisses plus ou moins grandes et sont bien souvent très, très habiles là, pour les analyses sanguines et les prises de sang.
Il ne faut pas se gêner de demander de s'allonger un petit peu plus parce qu'on dit j'ai eu des problèmes avec ça. Puis des fois, juste de se détendre un petit peu plus et pas regarder fait toute la différence.
Ouais. Docteur Harold Aulnay, vous êtes hématologue et oncologue médical, chef du département d'hématologie et médecine transfusionnelle du CHUM. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Et avec vous, Mme Paquette.
Au revoir.
Bon après-midi.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Monique Villeneuve, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Un plaisir de vous parler en prévision de cette journée internationale des bénévoles qui aura lieu le 5 décembre prochain, samedi. Est-ce que vous êtes bien prête?
Oui, nous, on est prêts. On espère que tous nos bénévoles sont prêts également.
Monique Villeneuve, vous êtes directrice générale du réseau de l'Action bénévole du Québec et on est là aujourd'hui pour parler des impacts bénéfiques sur la santé des bénévoles, en fait, les impacts du bénévolat. Il y a quelque chose qui est assez probant et qui ressort des études, c'est que la mortalité chez les personnes bénévoles est moins élevée que dans l'ensemble de la population.
Oui, 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 c'est vraiment un volet intéressant, en fait. Vous savez, il y a plusieurs études, tant américaines que canadiennes, là, qui ont démontré que le bénévolat pouvait, en effet, prolonger la vie des gens de plusieurs années parce que le fait de participer et de s'impliquer à la vie communautaire a des effets bénéfiques, entre autres sur la réduction de la tension artérielle, sur la diminution du stress et aussi, en fait, sur l'augmentation globale de la qualité de vie.
Oui.
J'ai en tête, entre autres, une recherche qui a été menée par une équipe de chercheurs de une université à Pittsburgh, aux États-Unis. Ce groupe de chercheurs-là a suivi pendant... ce qu'ils ont fait, ils ont suivi un peu plus de 1000 adultes âgés entre 51 et 91 ans. Ils les ont soumis à un questionnaire en 2006. Puis, en 2010, le même questionnaire, et ce qu'ils ont découvert auprès de ces personnes-là qui réalisaient plus de 200 heures de bénévolat par année, c'est que ils avaient 40 % moins de tension artérielle que des personnes du même groupe d'âge qui ne réalisaient pas de bénévolat.
Mm-hmm.
C'est intéressant, là. C'est étonnant aussi. Mais c'est intéressant de voir l'action bénévole sous cet angle-là.
Oui. On a même pu voir dans certaines études que l'action de faire du bénévolat peut être bon pour la santé cardiaque et même ce, pour des jeunes personnes.
Oui, tout à fait. C'était ça, cette autre étude-là, c'est du côté de jeunes de 15 à 18 ans, en fait. Ces jeunes-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment ils se comportaient en fait en participant à du bénévolat. C'est des jeunes là de cet âge-là. Après 10 semaines, en fait, leur taux de cholestérol avait diminué de façon importante. En s'étant consacré à du bénévolat, en fait, même sur une courte période, dans ce cas-ci, c'était pendant 6 semaines seulement.
Oui, donc des effets assez rapides.
Oui.
Et aussi, ce qui est peut-être plus, on s'en doute davantage, je le dirais ainsi, c'est tous les bénéfices pour la santé mentale.
Ouais.
On le sait, faire du bénévolat, ça amène des réductions de stress parce qu'on ne se sent pas sous pression, on n'a pas ce besoin de performance, là.
Oui, mais en fait, c'est que le bénévolat, ce que ça fait aussi chez les personnes, c'est que ça les sort de l'isolement.
Mm-hmm.
Ça fait rencontrer d'autres personnes. Montréal est la ville au Canada où il y a le plus de personnes qui vivent seules.
Mm-hmm.
C'est 18, environ là, une personne sur cinq à Montréal vit seule. Ce sont les statistiques de 2011, là, les données de Statistique Canada de 2011.
Mm-hmm.
Or, le bénévolat, en fait, nous amène à rencontrer d'autres personnes, à briser l'isolement. Ça favorise les interactions sociales. Donc, en s'impliquant dans un projet, un domaine, une cause qui nous tient à cœur, ça permet de créer des liens, de connaître de nouvelles personnes, de se découvrir des talents, de s'épanouir.
Mm-hmm.
Et donc, ça enlève du stress aussi et c'est bon pour l'ensemble de la santé mentale.
Oui. Monique Villeneuve, une question peut-être un petit peu délicate, mais est-ce que toutes les raisons sont bonnes de faire du bénévolat? Je m'explique. Si on fait du bénévolat pour des fins plus personnelles, est-ce que ça aura les mêmes impacts que si on le fait là, sans attendre vraiment avec un don de soi dans l'ouverture?
En fait, si on le fait strictement pour améliorer son CV, les impacts ne seront pas les mêmes sur sa santé globale que si on le fait vraiment de manière désintéressée et avec l'ouverture du cœur.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que les études, les recherches ont
démontré. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce qu'il y a des études aussi qui démontrent que les impacts ne sont pas les mêmes, dépendamment des raisons pour lesquelles on fait du bénévolat.
Ouais,
je voulais vous entendre là-dessus.
La générosité, l'ouverture du cœur, vraiment le désintéressement sont des ingrédients qui font partie du bénévolat, en fait. C'est, quand on donne une définition du bénévolat, c'est donner de son temps de manière libre et volontaire, mais aussi avec générosité, ouverture, désintéressement, et avec comme idée derrière la tête, je vais donner de mon temps, mais ça va me rapporter ceci, 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 cela. On n'est plus dans le geste désintéressé, libre et volontaire.
Ouais.
On est dans un calcul. Alors, c'est vraiment pas... On n'est plus dans les mêmes dimensions, là.
En terminant, Monique Villeneuve, quelles seront les activités un petit peu partout au Québec en ce 5 décembre, samedi prochain?
Écoutez, dans plusieurs centaines de villes, dans toutes les régions du Québec, il y a des milliers de bénévoles qui vont distribuer des cocottes de papier sur lesquelles on va retrouver des messages qui présentent différents types de bénévolat, différents exemples de bénévolat et puis des impacts directs sur les personnes, comme par exemple faire du bénévolat, on y éprouve autant de plaisir que de manger du chocolat.
Pour en savoir davantage, on dirigera les gens sur votre site rabq.ca. Monique Villeneuve, on vous souhaite samedi une très, très belle journée internationale des bénévoles.
Et à tous les bénévoles également.
Merci.
Merci à vous.
Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Je remercie l'équipe Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche. C'est Marianne Paquette au micro. Demain, dernière de la semaine, on se donne rendez-vous 14h. D'ici là, portez-vous bien, puis un petit peu de bénévolat, c'est possible pour tout le monde. Bye-bye.